Eh bien, chers amis, j'espère que cette dernière étape dans l'examen de notre thème ne sera pas une trop rude épreuve pour chacun d'entre nous. C'est dur le dimanche après-midi. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu pour renouveler chacun. Nous allons lire plusieurs passages. Le premier dans le livre du Deutéronome. Livre du Deutéronome, au chapitre 8. Chapitre 8 du Deutéronome, une invitation à se souvenir. Deutéronome, chapitre 8. Je lis des versets 2 à 5 d'abord, puis 14 à 16 ensuite. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Nous allons jusqu'à l'épître aux Hébreux. Donc avant Jacques et les épîtres de Pierre, l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, chapitre 5, nous y lisons les versets 7 à 10. Hébreux 5, versets 7 à 10. Il est question du Seigneur Jésus. Et Dieu nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans l'incarnation, quand il était au milieu des hommes, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission humble et respectueuse, de sa piété, mais c'est là la signification du terme dans ce contexte. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et enfin, un dernier passage bien entendu dans la première épître de Pierre, il sera une reprise du verset ou des deux versets lus ce matin par notre frère en conclusion au culte, 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Cinquième chapitre, versets 10 et 11. Nous avions lu les versets 8 et 9 en début de rencontre ce matin. Nous lisons les versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, c'est-à-dire qu'il vous équipera pour que vous soyez aptes à bien remplir votre service. C'est un mot qui a de nombreux sens, extrêmement riche. Vous perfectionnera, vous rendra aptes, vous équipera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Cette dernière étude dans le cadre de notre série intervient avec, entre autres, l'objectif de, jusqu'à un certain point, équilibrer ce que nous avons partagé ce matin. Je ne veux pas dire, et je m'en voudrais, que ce que nous avons partagé ce matin n'était pas équilibré. Mais ce que je veux simplement souligner en introduction, c'est que il était possible de mal comprendre ce que nous avons partagé. Et facile de le pousser à l'extrême. Et puis je ne voudrais pas que le destructeur, l'accusateur, l'ennemi par excellence de l'Église de Jésus-Christ et de son Seigneur, Satan, profite d'une étude comme celle que nous avons faite ce matin pour nous décourager. Parce que c'est là le risque aussi. Après avoir vu cette confrontation entre Saül, dont le tableau clinique était particulièrement impressionnant, et ce jeune homme, David, tellement différent dans sa personnalité, dans son tempérament, tellement attachant, nous pourrions être tentés de baisser les bras. C'est la raison pour laquelle nous avons lu notamment Hébreux 5, versets 7 à 10, qui sera cet après-midi la toile de fond de notre temps de réflexion. Texte qui nécessite quelques explications, parce que c'est un passage qui contient un certain nombre de pièges, qui a d'ailleurs été, comme le sont un certain nombre de passages des Écritures, exploité par certaines sectes, certains courants religieux, tout simplement parce qu'on peut faire dire effectivement à un texte biblique n'importe quoi, dans la mesure où tout simplement on le sort de son contexte. Pourquoi dire cela ? Bien, tout d'abord parce qu'il est affirmé dans ce texte à lecture superficielle que le Fils de Dieu dans l'incarnation a appris l'obéissance. Et pour nous, ça nous pose un problème. Parce que lorsqu'en tant qu'homme, nous disons que nous apprenons l'obéissance, cela signifie que nous passons du stade de la désobéissance à l'obéissance. Et effectivement, une lecture superficielle du passage pourrait nous laisser croire qu'après tout, le Seigneur Jésus-Christ était un homme comme un autre, qui a connu d'abord la désobéissance et qui, par ces situations de souffrance, a appris peu à peu à devenir obéissant, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. D'ailleurs, cette approche dangereuse que nous dénonçons semble confirmée par une autre expression qui suit au verset 9. Puisqu'il nous est dit qu'après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Élevé à la perfection. Là encore, même problème. Lorsque dans notre langage et dans notre expérience humaine, nous utilisons une telle expression, elle sous-entend que nous passons d'état d'imperfection à état de perfection. Voyez donc qu'il y a dans ce texte une double affirmation qui peut être exploitée de mauvaise manière par les détracteurs de la foi évangélique dans l'autorité des Écritures. À partir de là, bien entendu, il nous faut essayer de comprendre le texte, puisque de là, tout à l'heure, nous allons voir ailleurs dans les Écritures comment l'appliquer, mais dans la vie des hommes. Et puis enfin, nous ferons ce que nous avons fait ce matin, c'est-à-dire que nous veillerons à actualiser ce que nous aurons constaté dans la parole de Dieu. Le Christ a appris l'obéissance. Signalons simplement au passage que le terme obéissance que nous avons sous les yeux est un terme très intéressant, très suggestif dans le texte grec du Nouveau Testament. Ce n'est pas le seul mot de ce vocabulaire grec qui puisse être traduit par l'expression « obéir », mais c'est le mot le plus fréquemment utilisé dans le Nouveau Testament. Et le verbe grec se compose de deux parties. Vous avez tout d'abord l'élément essentiel de ce verbe, qui pris séparément signifie simplement écouter, qui est dans les Écritures tantôt traduit par entendre, tantôt par écouter. Et puis, il est simplement précédé d'un petit préfixe qui positionne l'écoute de la personne. Et obéir, c'est littéralement écouter dessous. C'est-à-dire écouter en se plaçant en dessous de celui qui parle. Et derrière ce dessous, bien entendu, il n'y a pas d'abord une position géographique, physique, mais il y a un sens spirituel et moral. Cela signifie que j'obéis quand j'accepte de me placer sous l'autorité de celui qui parle. C'est-à-dire lorsque j'accepte, je reconnais son autorité, donc que je traduis cette reconnaissance de l'autorité de celui qui parle dans ma vie quotidienne, dans mes actes, dans mes comportements quotidiens. Ça, c'est obéir. A contrario, désobéir a une composition similaire. Tout d'abord, la même première partie qui signifie, écoutez, mais précédé d'un autre préfixe qui, lui, indique une position d'éloignement. C'est-à-dire que désobéir, c'est écouter, mais non pas avec le désir de rester sous l'autorité de celui qui parle, mais de s'éloigner de cette autorité. On refuse d'accepter l'autorité de celui qui nous parle. On s'éloigne de lui. On ne veut pas accepter de se soumettre, se mettre en dessous de l'autorité de celui qui parle. Le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. La souffrance, nous l'avons vu ce matin en particulier sous toutes ses formes. École d'obéissance. École d'obéissance de la foi. Et c'est sans doute, très certainement, parce que nous sommes excessivement retors, indépendantistes, orgueilleux et rebelles face à l'autorité de Dieu exprimée dans sa parole et par son esprit, que nous sommes si souvent confrontés avec toutes sortes d'aspects du problème de la souffrance. Parce que ce n'est pas volontiers que Dieu humilie les enfants des hommes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, pour comprendre cette parole, il nous faut, avec beaucoup de précaution, pénétrer dans un domaine qui nous est totalement étranger, à savoir la position du Fils de Dieu avant l'incarnation. Nous avons quelques éléments dans la parole de Dieu, mais qui nous obligent à une grande sobriété. Je pense à l'unité extraordinaire entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je pense à l'égalité absolue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans leur essence. Je pense à ce travail d'équipe absolument extraordinaire dans le domaine de la création, dans le domaine du soutien de cette terre, dans le domaine de l'éducation d'Israël, etc. Et puis voilà qu'il est arrivé un moment où le Fils, volontairement, a accepté de venir au milieu des hommes. Dans ce processus tout à fait unique dans l'histoire du cosmos, qui est celui de l'incarnation. Le Fils de Dieu est donc entré à un moment donné de l'histoire de l'éternité. Le Fils de Dieu est entré dans un tout nouveau champ d'expérience. Comme Fils de l'homme, ainsi qu'il s'appelle lui-même. Et c'est toujours lui qui s'appelle Fils de l'homme. Il n'y a qu'un seul texte dans le livre des Actes, au moment de la lapidation d'Étienne, où ce n'est pas sur les lèvres du Seigneur Jésus que cette expression Fils de l'homme intervient. Mais c'est de toute manière de lui qu'il s'agit. Et là, en tant que Fils de l'homme, il est entré dans un tout nouveau champ d'expérience. Dominé à la fois par cette sorte d'enfermement que nous avons une peine énorme à imaginer en ce qui concerne le Fils de Dieu. Enfermement dans le temps et dans l'espace. Et quand on sait déjà combien il peut être difficile pour quelqu'un qui n'a jamais vécu avec une montre, un jour, parce qu'il change de culture et de région, d'utiliser une montre et de devoir vivre avec une montre, avec un programme, on peut imaginer ce que cela pouvait signifier pour celui qui vivait en dehors du temps et qui, par amour pour les hommes et par amour et soumission au Père, a accepté d'entrer dans ce champ particulier d'expérience qui était celui de l'enfermement dans le temps, mais aussi de l'enfermement dans l'espace. On sait combien l'enfermement dans le cadre d'une prison, dans une cellule, est déjà une expérience terrible pour un bon nombre de ceux et celles qui y sont obligés. Mais c'est passé d'un enfermement plus large à un enfermement beaucoup plus étroit. Pour le Fils, c'est bien pire de passer de cet état où il n'y a pas de limite à l'espace, à celui où l'on sait qu'il va falloir tant d'heures pour parcourir la distance entre Jérusalem et Béthanie, ou entre Jéricho et Nazareth, et que sais-je encore. Et puis il fallait que dans ce tout nouveau champ d'expérience, le Fils vive en permanence dans cette soumission volontaire au Père, lui qui avait la possibilité à tout instant de son incarnation de faire appel au monde invisible, au monde angélique, à la puissance du Père pour s'extirper des situations déplaisantes et difficiles à vivre. Nous avons tant de peine à toucher même à la surface tout ce que pouvait représenter pour le Fils de Dieu ce changement de champ d'expérience dans sa vie. Et c'est ici qu'il nous faut utiliser des images. Nous pouvons imaginer devant le Seigneur Jésus, à l'aube de son ministère, à l'heure du baptême, une sorte de grand escalier. Un grand escalier qui monte, n'est-ce pas? Qui monte très loin, très haut. Et le Seigneur Jésus voit, lui qui est en quelque sorte au pied de cet escalier, il voit se profiler là-haut, au bout de l'escalier, la croix sur laquelle il va mourir pour le péché des hommes. Chaque marche de cet escalier représente un nouveau degré de souffrance, de nouveaux tests d'obéissance, de nouvelles épreuves, de nouvelles tentations. Ce qu'il n'avait jamais connu dans le ciel. Et nous savons, par une lecture attentive des différents récits complémentaires sur la vie de Jésus, que durant ces 3 années qui l'ont mené jusqu'à la croix puis à la résurrection, la situation est devenue de plus en plus difficile pour lui. Les marches, en quelque sorte, étaient jusqu'à un certain point d'inégale hauteur. Et notamment dans la dernière année qui précède la croix, certaines marches étaient très hautes, très dures à franchir. Quant à celles des événements qui ont précédé Gethsémané, et puis ensuite les moments terrifiants sur la croix, accrochés entre ciel et terre, sous le mépris le plus incroyable de ses spectateurs et acteurs. Quelle haute marche! Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur Jésus a franchi chaque marche de cet escalier sans trébucher, de la manière la plus parfaite qui soit. Chaque nouvelle épreuve s'est traduite par une nouvelle obéissance parfaite, par une obéissance complète et sans réserve au Père. Et en quelque sorte, nous pouvons dire que Jésus-Christ s'est hissé d'obéissance parfaite en obéissance parfaite, mais chaque fois à un degré supérieur de difficulté, jusqu'à l'obéissance suprême de la croix. Si vous voulez, un peu comme en athlétisme, un sauteur à la perche ou un sauteur en hauteur passerait régulièrement chaque barre, haussée progressivement de quelques centimètres, il la passerait du premier coup sans la renverser. Se hissant donc d'une perfection à une autre perfection, puisqu'à chaque niveau, la barre ne tombe pas. Et plus l'épreuve est rude, plus il monte, en réussissant chaque fois à franchir la barre jusqu'au sommet suprême qui, pour le Fils de Dieu, a été cette barre de la croix. Voilà ce que signifie notre texte. Élevé à la perfection, passant de perfection en perfection, parfait à chaque état, mais hissant sa maturité, sa soumission à la volonté de Dieu, son obéissance, au niveau même de la gravité de la situation, de la gravité de la tentation, de la rudesse de l'épreuve, de la rudesse de l'hostilité de ceux qui étaient autour de lui. Combien cela m'encourage. Combien cela m'encourage parce que c'est riche de sens. Pour moi, l'un des sens nous est donné dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, lorsqu'il nous est dit au verset 10, par exemple, qu'il convenait en effet que celui par qui et pour qui, ou pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Voyez la nécessité pédagogique de la répétition quand des grandes vérités ont une valeur particulière. Et puis, un peu plus bas, verset 17, en conséquence, lui, Jésus-Christ, a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oh, combien cela me fait du bien de savoir que je n'ai pas affaire à une sorte de Dieu apathique, c'est-à-dire insensible, enveloppé dans les nuages de son éloignement des problèmes de la terre. Nous avons affaire à un Dieu sensible, à un Dieu dont il nous est dit qu'il souffre. Et non seulement notre Dieu est un Dieu qui sait ce qu'est la souffrance, mais il a expérimenté, il a vécu la souffrance dans son intensité suprême, telle qu'aucun être ne pourrait la connaître sur la terre. Dans tout ce que contient le programme de l'incarnation, avec cet aboutissement suprême, cette souffrance portée à son paroxysme et qui ne peut qu'aboutir à la mort pour nous, la croix. Je peux continuellement dire au Seigneur, tu me comprends, tu n'es pas insensible. Ma souffrance, tu la partages. Même si tu te tais, même si j'ai le sentiment que
dans cette situation, je n'entends plus rien de toi. Je sais une chose, Seigneur. C'est que toi, tu sais ce qu'est la souffrance. Et je pense à cette parole de Dietrich Bonhoeffer que je citais déjà ce matin et qui a su ce que c'était que la souffrance injuste dans cette prison alors qu'il attendait la mort et qui a écrit ceci. Il est en prison d'ailleurs, ça fait partie de ses lettres écrites en prison. Il est infiniment plus facile de souffrir par obéissance à un ordre humain que d'accepter la souffrance en tant qu'homme libre et responsable. Il est infiniment plus facile de souffrir avec d'autres que de souffrir seul. Il est infiniment plus facile de souffrir comme un héros public que de souffrir dans un coin et dans l'ignominie. Il est infiniment plus facile de souffrir une mort physique que d'endurer une souffrance spirituelle. Le Christ a souffert en tant qu'homme libre, seul, dans un coin, dans l'ignominie, dans son corps et son esprit. Et depuis ce jour, beaucoup de chrétiens ont souffert avec lui. Seigneur, je te bénis. Parce que tu n'es pas un théoricien de la souffrance. Tu peux me donner des leçons dans ce domaine. Parce que, c'est le cas de le dire, tu as vraiment souffert dans ta chair, dans ton esprit. Je sais que tu peux me comprendre. Mais Seigneur, si tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert, te hissant de perfection en perfection jusqu'à l'obéissance suprême de la croix. Toi, le Fils de Dieu, à combien plus forte raison, moi, qui ne suis pas de nature obéissante, vais-je apprendre, mais alors là, véritablement apprendre, dans le sens de passage de désobéissance à l'obéissance, je vais apprendre parce que je vais souffrir. Et c'est donc, à partir de cet enseignement de type doctrinal, ce que nous allons essayer de traduire dans certains textes des Écritures maintenant. Je vous propose un court texte du livre de l'Exode, au chapitre 13, puisque, comme très souvent, l'Ancien Testament peut nous servir d'illustration remarquable pour comprendre certaines des vérités les plus profondes des Écritures. Exode, chapitre 13, versets 17 à 22. Exode 13, 17 à 22. La Pâque vient d'avoir lieu. Un peuple de 2 à 3 millions d'individus, avec tout leur déménagement, vient donc de s'ébranler vers la liberté tant attendue. Et nous a dit au verset 17 que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot, ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous venons de le dire, Dieu poursuit donc un objectif de perfectionnement de l'obéissance dans nos vies. au moyen de tests variés. Et c'est le peuple d'Israël qui, dans l'Ancienne Alliance, incarne par excellence cette pédagogie divine. Je ne sais pas si nous mesurons bien la portée de ces quelques versets. Ce peuple qui, depuis plus de 4 siècles, attend et a attendu cette heure de la libération annoncée déjà à Abraham. Cette heure qui semble avoir tant tardé, quoique Dieu ait dit clairement à Abraham que ça prendrait du temps. Et puis enfin, après 4 siècles d'attente, les promesses faites à Abraham et aux autres patriarches sont en train de s'accomplir. Et je m'imagine, membre d'une petite famille juive, traversant avec les miens la mer Rouge, la mer des joncs, et discutant de tout mon cœur avec ma meilleure moitié, la seule d'ailleurs, et heureusement, discutant avec elle de la manière dont nous allons organiser notre maison en terre promise. Dans cette pièce, nous mettrons de la tapisserie bleue à petites fleurs roses. Oh, dans notre chambre à coucher, voilà comment nous procéderons. Hein? On peut imaginer quand on va déménager, hein, tout ce que ça peut signifier. Puis après une si longue attente, après un tel inconfort en Égypte. Et puis on a déplié la carte Michelin et on a fait le calcul, hein, parce qu'il fallait prévoir toutes sortes de choses, comme toujours pour un voyage. Hein. On se dit, oh, dans quelques semaines, c'est vrai, on est nombreux, on ira plus lentement, il y a les petits, il y a le déménagement, il y a les poules et tout le reste, n'est-ce pas? Donc, on va aller lentement, mais enfin, en quelques semaines, on y sera. Et puis, ne voilà-t-il pas que il semble qu'il y ait un problème du côté de Moïse. Est-ce le soleil qui chauffe trop la tête? Comment se fait-il que lui, le chef du peuple, aille dans cette direction? Comment peut-on vouloir aller vers Marseille en prenant l'autoroute Paris-Lille? Quelque chose qui colle. Et je peux imaginer les futurs chefs syndicalistes d'Israël, parce que tout ça était encore en formation, hein, qui se précipitent vers Moïse, leur carte Michelin à la main, en disant, hé, Moïse, tu ne sais pas lire une carte. Tu ne sais pas lire une carte. Nous, on a fait le calcul et on la connaît, on le connaît l'itinéraire. Où es-tu en train de nous emmener? Et je me souviens, en 1985, lorsque nous avons quitté l'aéroport de Lod, en Israël, nous sommes partis vers le Caire. Et nous sommes partis vers le Caire par la route la plus rapide, 500 kilomètres. C'est très rapide. Et ensuite, nous sommes remontés par l'itinéraire très biscornu et tortueux du désert. Et nous avons pu nous rendre compte de la différence. Et voilà qu'au lieu de l'itinéraire rapide en bon car pullman, pardon de faire de la pub, hein, Moïse est en train d'emmener le peuple tout à fait à l'opposé, dans une impasse. Et quand on lui dit, mais Moïse, tu ne sais pas lire ta carte, il dit, écoutez, moi j'ai une autre carte à lire. J'ai la carte du ciel. Elle n'a rien à voir avec l'astrologie. C'est la carte de mon Père dans les cieux. Regardez là-haut. Regardez la nuée. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous indique le chemin. Alors, il y a certes des évidences conformes à la raison qui devraient me conduire à vous emmener par le chemin le plus direct. Mais il se trouve que la raison de Dieu ne semble pas du tout conforme à la raison humaine dans notre situation. Et moi, j'ai appris à me soumettre à la raison de Dieu. Vous savez qu'il y a un col dans les Pyrénées qui est aimé par certains coureurs du Tour de France parce que c'est un col prestigieux dans l'histoire, mais qui les fait souffrir. C'est le col du Tourmalet. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce col qui culmine à 2114 mètres, le plus haut des Pyrénées françaises, porte bien son nom. Puisque Tourmalet signifie littéralement « mauvais détour ». En effet, les coureurs pourraient très bien emprunter la route la plus directe qui va de Tarbes à Pau pour éviter ce mauvais détour. Mais voilà, le sport est ainsi fait, n'est-ce pas, que... Eh bien, si vous voulez, aux yeux du peuple d'Israël, cette expérience qui commence avec ce verset 17 apparaît un peu comme le Tourmalet. C'est un mauvais détour! Et nous sommes, vous et moi, mes bien-aimés, souvent en train de dire à Dieu, « Oh Dieu, selon ma logique, selon mon raisonnement, selon mon expérience, et tu sais que je te connais parce que ça fait longtemps que je marche avec toi, c'est un mauvais détour. » Ça ne vous est jamais arrivé? Je ne sais pas combien de fois j'ai dit cela à Dieu. Seigneur, c'est un mauvais détour. Parce que, n'est-ce pas, nous avons un avantage inouï sur les Israélites. C'est que nous avons les tenants et les aboutissants. Nous avons déjà les solutions. Nous avons dans le texte l'explication. Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Je ne suis pas du tout sûr que Dieu ait donné toutes ces explications à Israël. Vous comprenez ? Et notre problème est le même. C'est que nous ne recevons pas toujours, et bien loin de là, au départ, les explications quant aux raisons des détours par lesquels Dieu nous fait passer pour aller vers le pays de l'accomplissement de certaines promesses dans nos vies. Et nous avons donc tendance à être coincés à quelque part par ce que j'appelle ces mais énigmatiques de Dieu. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Et moi, mes bien-aimés, je ne sais pas comment vous êtes, mais je n'aime pas les détours. Je n'aime pas les détours. Surtout quand, de surcroît, j'ai une série de réunions et que le détour, comme il y en a plus d'un, m'allonge l'itinéraire. Au point même que, parfois, les détours, vous savez, ça commence au départ, vous partez, et effectivement, en sens inverse. Mais ils ont dû se tromper en mettant les flèches. La route va par là, puis le chemin part, et puis il part très loin de l'autre côté. Je n'aime pas les détours. Et nous sommes, mes bien-aimés, dans un monde où l'homme n'aime pas les détours. Il faut que ça aille vite. Dieu ne marche pas comme ça. Oh, dans certains domaines, nous aimons les détours. Nous aimons les détours du péché. Parce que le peuple d'Israël a connu des détours. Après ce détour dans la volonté de Dieu, il y en a eu un autre. Mais cet autre détour, il a duré 40 ans. Pendant 40 ans, le peuple a dû tourner dans le désert. Ça, c'était un énorme détour. Mais pourquoi? Parce qu'il était incrédule. Alors le problème, c'est que nous créons dans nos vies des souffrances de détours liées à notre désobéissance, à nos inconséquences, à nos rébellions, à nos esprits d'indépendance, parce que nous discutaillons avec Dieu, avec son autorité continuellement. Mais dans d'autres domaines, quand Dieu, lui, veut faire nous passer par certains détours parce qu'il nous aime, nous contestons, on fait les choses à l'envers. Vous ne trouvez pas? Moi, je trouve que j'ai tendance à faire les choses à l'envers. Je m'inscris dans des détours qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, et quand Dieu, par amour pour moi, veut me faire passer par certains détours, je conteste. Puis vous savez, quand ces 2 à 3 millions de personnes se sont retrouvées au bord de la fameuse mer des gens, avec derrière eux l'armée égyptienne qui les talonnait, qui semblait avoir raison? Est-ce que c'était Moïse? Pas du tout. C'était ni Moïse ni Dieu. On s'est tourné vers Moïse, on lui dit, mais tu vois, on avait bien raison. Si tu nous avais écoutés, quand tu as commencé à prendre cette direction, on ne serait pas dans le pétrin, on ne serait pas dans l'impasse maintenant. Parce que c'est comme ça que nous sommes, n'est-ce pas? J'avais bien raison. Le seul problème, c'est que nous ne croyons pas à l'intervention du surnaturel divin dans nos vies. Nous ne pensons pas qu'il a la capacité, dans les situations d'in extremis, lorsque nous sommes dans l'impasse absolue, nous ne croyons pas qu'il ait la capacité d'intervenir, c'est ça. On voit des gens bien baraqués, n'est-ce pas? Des géants du style Goliath. Et si l'on ajoute que, on le sait par l'archéologie, les Philistins, à cette époque, étaient très très en avance sur les autres civilisations de la région, au niveau de l'usage du fer, et donc des armes et des chars de fer, lui, Dieu le savait. Mais Israël ne le savait pas. Dieu savait donc qu'Israël n'était pas du tout en état de lutter, et de lutter encore, avec ces Philistins. C'était pas encore l'heure des trop rudes combats. Israël avait besoin d'apprendre d'autres choses absolument fondamentales. Et mes bien-aimés, j'aimerais souligner cet après-midi une grande leçon que Dieu me donne et nous donne pour nos vies. C'est que les petites souffrances des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles. Je sais que c'est un problème dans nos vies, et pourtant quel signe de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas nous exposer au-delà de ce que nous sommes rendus capables de supporter. Nous avons donc dans ce texte une illustration d'un Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13, qui est d'ailleurs la conclusion d'un texte sur le désert d'Israël. Aucune tentation, aucune épreuve. C'est le même terme grec, traduit tantôt par épreuve, tantôt par tentation, en fonction du contexte. Et effectivement, le contexte, les versets précédents invitent à traduire ainsi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je vous disais que notre étude de cet après-midi serait une sorte de complément équilibrant à l'étude de ce matin. Parce que je suis heureux de pouvoir évoquer cet après-midi cet amour de Dieu qui contrôle nos situations de souffrance dans ce monde hostile, pour reprendre le thème de la première épître de Pierre. Dieu contrôle nos épreuves. Certes, nous ne comprenons pas toujours et loin de là le dosage de Dieu et la pédagogie de Dieu. Et il est même dans ce domaine des choses que nous ne comprendrons que là-haut. Dieu ne nous laisse comprendre sur la terre que ce que lui juge nécessaire que nous comprenions. Et il est vrai que Job est loin d'avoir tout compris de ce qu'il avait vécu. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il a compris ce qu'il avait à comprendre. Et désormais, il n'avait plus de questions fondamentales à poser, même si un tas de questions restaient pourtant sans réponse, après ces terribles souffrances. Il y a, dans le livre du prophète Ésaïe, une parabole. Dans Ésaïe, au chapitre 28, dans le contexte de la situation d'Israël pendant les quelques dizaines d'années du ministère de ce prophète Ésaïe, la parabole du cultivateur, elle commence au verset 23 avec cet appel à l'écoute, style hébreu, comme nous avons dit ce matin, force répétition pour que nous ouvrions bien l'oreille. Verset 23, prêtez l'oreille. Et écoutez ma voix. Soyez attentifs. Et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répande la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton, le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande et sa sagesse. La parabole du cultivateur, la parabole de l'équilibre divin. Et cet équilibre de Dieu en ce qui concerne la pédagogie de la souffrance dans les Écritures est quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, au fond de nos cœurs, nous étions angoissés peut-être à la pensée de devoir passer par des épreuves semblables à celles du jeune David, confronté à la vindicte implacable, à la haine meurtrière de Saül, n'est-ce pas? Nous pouvions nous dire, mais si je dois vivre cela, non Seigneur, c'est trop. Alors j'aimerais ici dire quelque chose. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire d'un Samuel 18 à 30, c'est que dans son amour, Dieu a placé aux côtés de David quelqu'un dont l'amour était aussi fort pour lui que l'était la haine de Saül. Ça, c'est l'équilibre de Dieu. Et vous le connaissez, ce quelqu'un. Dans cet humour et cet amour de la souveraineté de Dieu, Dieu est allé choisir dans l'antre, pardon de le dire comme ça, hein, après ce qu'on a dit ce matin, dans l'antre du serpent, il est allé prendre le fils, Jonathan, pour en faire le modèle des véritables amis. Et chaque fois que je relis, et je l'ai refait ce matin, chaque fois que je relis ces passages concernant la relation d'affection entre David et Jonathan, je la place en clair-obscur, n'est-ce pas, comme dans les tableaux de Rembrandt, avec l'attitude de Saül. 1 Samuel 18, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée et sa ceinture. Chapitre 19, vers ses premiers, Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Chapitre 20, verset 17, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Verset 30, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe. » Chapitre 20, verset 41, les deux amis s'embrassèrent, pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Et puis encore, chapitre 23, verset 16, « Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. » Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Saül gît sur le champ de bataille, parce que l'œuvre de formation de base de David est terminée, le temps de formation de base est terminé, Jonathan disparaît lui aussi. La haine implacable vient de s'éteindre. David n'a plus besoin de son équivalent en amour. Les deux disparaissent. Les larmes, certes, de David vont s'élever, puisqu'il nous est dit dans ce cantique de l'arc au chapitre 1er et au verset 26, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. » Mes amis, oh bien sûr, disons-le au passage, parce qu'il y a de quoi susciter notre indignation, une telle marque d'amour n'avait rien à voir avec l'homosexualité, puisque ce texte, les homosexuels s'en sont emparés et qu'il existe des associations d'homosexuels qui s'appellent les David et Jonathan. On peut faire dire à la Bible n'importe quoi, mais n'importe qui, parmi ceux qui ont des sentiments purs dans leur cœur, sait combien, à certaines périodes d'une vie, l'amour pur d'un Jonathan peut être plus fort que l'amour de la meilleure des femmes à l'heure de certaines souffrances. Nous aurions pu prendre d'autres exemples. Il y en a d'autres dans les Écritures, très imagés, mais le temps passe. Et j'aimerais simplement tirer très brièvement maintenant quelques leçons de cette parabole du cultivateur. Verset 23 et 24 d'Ésaïe chapitre 28. Verset 23 et 24 tout d'abord de ce chapitre 28. 24, celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Et même à l'intérieur de cette période où il semble que l'ennemi s'attache à nos bottes de manière implacable, comme Saül s'est attaché aux talons de David de manière implacable, nous voyons David qui passe du désert de Mahon dans l'oasis d'En-Gedi. Et quand on a parcouru cette région, je l'ai parcourue, on sait quelle différence extraordinaire existe entre le désert de Mahon, dans sa solitude et sa sécheresse, et cette oasis d'En-Gedi, véritable paradis au bord de la mer morte. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Il y a un cycle. Labourage, ensemencement, croissance, récolte, battage, foulage, repos. Je bénis Dieu de ce que même dans nos rudes épreuves, il y ait aussi les temps de répit. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours, dira le verset 28. Je pense ici à ce croyant qui était dans un train à l'heure, à l'aube de l'existence des trains, alors qu'il qu'il n'y avait pas encore d'électricité dans les compartiments ou dans les salles. Et il avait en face de lui quelqu'un qui reconnut pour ne pas être du tout habitué à emprunter ce genre de moyen de locomotion. Il lui avait déjà acquis quelque habitude. Et il pouvait se mettre dans la peau de ce novice en la matière. Et voilà que subitement, le train arrive dans un tunnel. Et c'est la nuit noire. Et notre croyant d'imaginer l'état d'âme subite du novice en face de lui et se dire, mais comment est-ce que je pourrais l'aider? Parce qu'il doit se dire, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors très délicatement, il essaye sans le toucher, de peur qu'il fasse une crise cardiaque, il essaye de lui dire le plus gentiment possible, écoutez monsieur, réjouissez-vous, nous ne sommes pas dans un sac, il y a un trou à l'autre bout, ça va s'arrêter. Il y a un trou à l'autre bout. Et peut-être que Dieu dit cet après-midi à quelqu'un d'entre nous, eh bien tu sais, il y a un trou à l'autre bout. Mais attention, attention, quelqu'un a dit, le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, mais le réaliste, même dans la foi, voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel et le prochain tunnel. Parce que notre problème, c'est que nous nous créons des souffrances que Dieu voudrait nous éviter. Pourquoi? Parce que nous sommes béats d'admiration devant la lumière retrouvée. Et nous cessons d'être vigilants. Nous buvons cette lumière à la sortie du tunnel de manière goulue, avec un bonheur tellement intense que nous en relâchons notre vigilance, comme si nous étions déjà arrivés au bout du voyage. Non. Lorsque nous arrivons dans une vallée ensoleillée, sachons simplement, non pas pour que cela assombrisse notre horizon, mais pour que nous puissions être toujours prêts, que bientôt, il y aura un autre tunnel dans notre apprentissage de l'obéissance de la foi. Versets 25 à 28. « N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répande la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur ses bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Dieu sait faire parfaitement la différence entre nous. Nous ne sommes pas tous du blé. Chacun d'entre nous est au regard de Dieu une céréale différente. Non pas une grosse légume différente, j'ai bien dit simplement. Une céréale. Nous sommes différents. Et parce que nous sommes différents les uns des autres, nous avons notre place marquée dans le plan de Dieu, dans la stratégie de Dieu. Je ne m'appelle pas David. Je m'appelle simplement Maurice Decker. Et Dieu, sur ce plan, me regarde comme unique à ses yeux. Pour Dieu, la forêt ne saurait faire oublier l'arbre. Chaque arbre est important au regard de Dieu. Chaque sorte de céréale, chaque épi, chaque tige qui ploie sous le vent de l'opposition compte au regard de Dieu. Et cela veut dire que Dieu va choisir soigneusement le traitement, l'épreuve, le parcours pour chacun d'entre nous. Et nous devons faire suffisamment confiance à notre Dieu pour croire qu'il n'y a chez lui, le Dieu du cosmos, c'est-à-dire le Dieu de l'ordre, ni désordre, ni arbitraire. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne se complaît pas dans une sorte de sadisme lié à un autoritarisme sans borne. Les épreuves, les tests sont donc soigneusement mesurés. Dieu travaille à l'intérieur de notre personnalité à chacun, tout en la purifiant. Et Dieu nous éprouve en fonction de sa connaissance parfaite de notre personne et de ses plans, de ses objectifs pour nous. Je n'ai donc pas à m'inquiéter en regardant le chemin par lequel passe mon voisin et en me disant, s'il est passé par là, c'est que je dois passer par là. Ça, c'est ce que la puissance des ténèbres essaye de nous seriner en permanence pour nous déstabiliser. Seigneur, tu as un chemin pour lui et je veux prier pour lui. Et je veux l'épauler dans son chemin. Et puis tu as un chemin pour moi. Et je te demande, même quand je n'y comprends plus rien, de me garder fidèle sur ce chemin. Même si je te crie au visage parce que tu es mon père et que je peux tout te dire, Seigneur, je ne comprends plus rien. Pourquoi ? Dieu accepte nos pourquoi. Tout comme il a accepté la multitude de pourquoi de Job. Mieux vaut voler lui crier à lui que de les lancer à la face de personnes fragiles que nous risquons de déstabiliser. Disons-le lui, qu'Israël le dise. C'est dans les psaumes, n'est-ce pas ? Ils m'ont labouré, ils m'ont fait du mal, ils m'ont lié, ils m'ont emprisonné. Qu'Israël le dise. Nous voulons le dire. Nous voulons le lui dire. Et puis enfin, Dieu laboure toujours avec un objectif, l'objectif de semer, l'objectif de récolter, à son heure. La récolte ne vient pas toujours de notre vivant. Toute l'histoire de l'Église est là pour le prouver. Que de récoltes extraordinaires ont eu lieu. Après que la mort ait ravi à des bien-aimés, un être qui avait beaucoup souffert et qui était resté simplement fidèle à son Dieu. Mais Dieu laboure toujours avec l'objectif de semer et de récolter à son heure. Dieu veut la fécondité par la souffrance. Pas forcément la fécondité et la rentabilité telles que nous sommes tentés de les exprimer par mimétisme de ce monde qui a des conceptions très étranges de la rentabilité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu veut la fécondité par la souffrance. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Justement, précisément, à cause de cette dimension-là, nous l'avons dit, ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Alors je comprends. Je comprends qu'une telle parabole se termine par l'exclamation du verset 29. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. De l'Éternel des armées, c'est là une allusion directe à la souveraineté absolue de Dieu sur le monde visible et invisible. Il est souverain absolument. Admirable est son conseil et grande sont ses ressources. Je comprends qu'Ésaïe, inspiré par Dieu, s'exclame de cette manière après avoir entendu en quelque sorte Dieu lui enseigner le message de son équilibre par cette merveilleuse parabole. Nous allons nous arrêter là. Il y aurait bien d'autres enseignements à tirer de ce détour par le chemin du désert. Il y a d'autres raisons. Nous allons nous arrêter là. De toute façon, nous ne sommes jamais au bout. Mais vous comprenez que nous tenions cet après-midi à présenter cette autre facette complémentaire à celle de ce matin. Ce matin, nous avons vu comment les rigueurs de la tempête peuvent être grandes. Combien
Il peut y avoir derrière nous, dans l'hostilité, des Saül que Dieu utilise malgré lui pour notre croissance, pour que nous connaissions ce statut de fils du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Cet après-midi, nous avons vu l'amour de Dieu se déployer pour nous rassurer quant à l'esprit dans lequel il travaille dans la souffrance, aux limites que lui fixe au monde de la souffrance, tout en reconnaissant simplement, humblement, qu'il y a bien des aspects de cette souffrance qui nous apparaissent sur cette terre totalement énigmatiques, mais qui n'échappent pas, heureusement, au saint contrôle de notre Dieu. Nous l'en bénissons. Tout ce que je ne comprends pas de la souffrance, je peux l'accepter, parce que tout ce que Dieu m'a donné dans sa parole comme explication sur la souffrance, c'est vérifié comme étant vrai dans la pratique. Donc je peux bien accepter ce que je ne comprends pas si tout ce qui m'a été expliqué s'est avéré juste selon la parole de Dieu. Seigneur, je te fais confiance pour ce que je ne te comprends pas, parce que dans tant et tant de domaines, non seulement dans ma vie, mais dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de ce monde, que ce soit déjà dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, tu nous donnes tant d'exemples de la véracité de tes promesses, de ta parole, de ta pédagogie, quand ils sont confrontés au terrain de la vie de tous les jours. Seigneur, nous éprouvons le besoin de t'adorer, simplement. Nous avons parlé de choses qui nous dépassent. Nous n'avons fait certainement qu'effleurer ce sujet. Tu auras sans doute dans l'éternité à venir tant de choses à nous dire. Et nous serons étonnés, nous serons stupéfaits quand nous comprendrons l'incompréhensible aujourd'hui ou ce que tu voudras nous en dire. Mais Seigneur, nous te bénissons. Merci, merci parce que si nous sommes appelés dans un monde hostile, tu nous tiens dans ta main, tu nous formes, tu nous transformes. Et rien, rien ne saurait et ne pourrait nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci, merci de tout cœur. Cela nous rassure. Quelle sécurité d'être caché en toi. Seigneur, maintenant que nous allons reprendre simplement la route de la vie quotidienne dans cette semaine, tu sauras, dans ta grâce, nous rappeler ce que nous avons besoin de nous rappeler au fil des heures, chaque fois que nous en aurons le besoin. Donne-nous simplement d'avoir cette oreille du cœur attentive, de vivre suffisamment près de toi pour capter les signaux de ta part lorsque tu auras quelque chose que tu voudras nous rappeler. Et merci, parce que tu nous garderas jusqu'au bout, jusqu'au moment du grand rendez-vous avec toi, que nous croyons très très proche, et nous en sommes reconnaissants. En Jésus-Christ. Amen.